voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Les lettres autographes de Balzac ont été confiées à la bibliothèque de l'Institut. Grâce à l'aimable autorisation de son conservateur-directeur, Madame Mireille Pastoureau, Canal Academy peut vous offrir ici la lecture de plusieurs d'entre elles. Une première édition intégrale de cette correspondance avait été publiée en 1967 aux éditions du Delta à Paris. Les textes avaient été réunis, classés et annotés par M. Roger Pierrot, conservateur à la Bibliothèque nationale. Les lettres à Madame Anska représentent 4 tomes. Elles ont été écrites entre 1832 et 1848. Le choix des quelques lettres que vous allez entendre a été confié à Anne-Françoise Dumont et elles sont lues par Fernand Guillot.
Rue Fortuné, 17 août 1850. Balzac s'éteint doucement dans la nuit. Sa mère seule est à son chevet. Madame de Balzac s'est retirée depuis longtemps. Le 22 août a lieu la sépulture. La messe des morts est dite dans l'église de Saint-Philippe-du-Roule. Le corps est conduit sous la verse au cimetière du Père-Lachaise. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Sainte-Beuve et le ministre Baroche tiennent les cordons du poêle. C'est Victor Hugo qui prend la parole. Lui seul a la grandeur et la dignité qui conviennent en un tel moment. L'homme qui vient de descendre dans cette tombe était de ceux à qui la douleur publique fait cortège. Dans les temps où nous sommes, toutes les fictions sont évanouies. Les regards se fixent désormais, non sur les têtes qui règnent, mais sur les têtes qui pensent. Et le pays tout entier tressaille lorsqu'une de ces têtes disparaît. Aujourd'hui, le deuil populaire, c'est la mort de l'homme de talent. Le deuil national, c'est la mort de l'homme de génie. Messieurs, le nom de Balzac se mêlera à la trace lumineuse que notre époque laissera dans l'avenir. De telles paroles, Balzac de son vivant n'en avait jamais entendu. Du haut du Père Lachaise, il va, comme son héros Rastignac, faire la conquête de Paris. Balzac était malade depuis longtemps, déjà. Les médecins savaient qu'il était perdu et Madame de Anska ne s'était décidée à réaliser le dernier vœu de l'homme qui pendant tant d'années avait aspiré à sa main, que lorsqu'elle avait été certaine que cette union ne pouvait durer longtemps. Le mariage avait eu lieu dans la plus stricte intimité en l'église Sainte-Barbe, dans la capitale provinciale ukrainienne de Berdichev, le 14 mars 1850. Il y a 3 jours, écrit Balzac à sa vieille amie Zulma Caro, j'ai épousé la seule femme que j'ai aimée, que j'aime plus que jamais et que j'aimerai jusqu'à la mort. Cet amour, pourtant, nous pose bien des questions. Il était né d'un canular. Au fin fond de l'Ukraine, dans son château de Vierzchovnia, enfoui sous la neige, Madame de Anska s'ennuie. Par une de ces longues soirées d'hiver de 1831, une controverse particulièrement vive s'est engagée entre les hôtes du château. Madame de Anska, son frère qui est en visite, Adam Zwuski, ses deux nièces et la gouvernante suisse de sa fille, Henriette Borel. On discute sur un nouvel écrivain parisien, un certain Honoré Balzac, qui depuis un an tient tout le monde en haleine, surprend, choque aussi. Pourquoi ne pas lui écrire ? Le petit cercle confectionne une lettre très romantique, très sentimentale, très pathétique et abondamment assaisonnée d'admiration. Une vraie charade sur laquelle il se cassera la tête. Madame de Anska ne signera pas, cela va de soi, et ne l'écrira même pas de sa main, si monsieur de Anski l'apprenait. Son frère ou la gouvernante s'en chargeront et on scellera la lettre avec le cachet « Diis Ignotis ». Ce sera un hommage de dieux inconnus qui le rappelleront à sa vraie nature, et non une terrestre madame de Hanska, très terrestrement mariée, ainsi que le dit Stefan Zweig dans la biographie qu'il a consacrée à Balzac. Balzac reçoit beaucoup de lettres, parfois deux ou trois en un même jour. Il lit avec un soin tout particulier les lettres de femmes. Elles renforcent son sentiment de tout ce qu'il pourrait être pour l'une d'elles. Et il suffit qu'une note, une ligne, éveille sa curiosité pour qu'il réponde longuement, lui qui n'écrit que de façon tout à fait sommaire, même au plus en vue de ses contemporains. Lorsque cette première lettre, scellée du cachet « Dies Ignotis » et signée du mot mystérieux « l'étrangère », arrive chez Balzac, de Russie, le 28 février 1832, par l'intermédiaire de l'éditeur Gosselin, elle remplit entièrement son objet, qui était d'agacer le romancier, de s'imposer à sa pensée, de le fasciner. Cet inconnu ne peut être qu'une comtesse, qu'une princesse, russe ou polonaise. Jamais Balzac n'a laissé sans réponse la lettre d'une princesse, régnante ou non. Mais comment se mettre en relation avec la lointaine admiratrice? Tandis que Balzac cherche vainement comment rejoindre son inconnue, celle-ci lui adresse une seconde lettre, puis une troisième, concoctée par le même petit groupe. Le 7 novembre 1832, d'accord avec ses intimes, Madame de Hanska propose à Balzac de lui répondre par l'intermédiaire du journal La Quotidienne. C'est la première lettre qui nous a été conservée. Un mot de vous dans La Quotidienne me donnera l'assurance que vous avez reçu ma lettre et que je puis écrire sans crainte. Signé A. Le. H. de B. Le 8 janvier 1833, Madame de Hanska reçoit le numéro de La Quotidienne de Paris du 9 décembre 1832 et y trouve ses lignes dans les annonces. M. de B. a reçu l'envoi qui lui a été fait. Il n'a pu qu'aujourd'hui en donner avis par la voix de ce journal et regrette de ne pas savoir où adresser sa réponse. A. Le. H. de B. Tout d'un coup, la situation échappe au plaisant et commence à devenir scabreuse pour Madame de Hanska. Elle a l'impression que, en établissant des rapports directs avec Balzac, elle s'engage dans une aventure qui ne se peut concilier avec les exigences de son rang ni avec celles de la droiture personnelle. Et en même temps, quel charme piquant dans ses relations défendues, dans cette attente d'une lettre autographe de l'écrivain célèbre. Madame de Hanska hésite. « Je voudrais bien avoir une réponse de vous, mais il faut prendre tant de précautions, tant de détours, que je n'ose encore me fixer à rien. Je ne voudrais pas cependant rester dans l'incertitude sur mes lettres et j'aviserai à vous indiquer par ma première un moyen certain de correspondre librement, en comptant toutefois sur votre parole d'honneur de ne pas chercher à connaître la personne qui prendra vos lettres. Je serais perdue si on savait que je vous écris et que je reçois de vos lettres. » Le ton a complètement changé. C'est Madame de Hanska elle-même qui écrit. Et l'on perçoit pour la première fois quelque chose de son caractère véritable. Une femme qui, même lorsqu'elle risque une aventure, réfléchit froidement et clairement. Si elle fait un faux pas, dit encore Stefan Zweig, elle le fera la tête haute et la raison en éveil. La correspondance va s'installer. Balzac a pris entièrement au sérieux la machination des lettres enthousiastes. Une, deux lettres parviennent à Madame Hanska. Balzac veut se créer un roman d'amour. D'instinct, il agit ainsi dans le style du temps. À l'époque romantique, le public parisien et européen n'attend pas seulement de ses écrivains qui lui donnent des romans passionnants, mais encore qu'ils se trouvent eux-mêmes au centre d'un roman, se déroulant dans les sphères du grand monde. Pour gagner les cœurs, je cite encore Stephen Zweig, « un auteur doit avoir une affaire aussi sensationnelle et publique que possible, et dont on parle beaucoup. » C'est ainsi que l'on peut comprendre les premières lettres de Balzac à l'inconnu, introduction à un roman qui, il l'espère, ne sera pas tributaire de l'inspiration, mais des événements. L'un des personnages principaux est l'inconnu, qui ne prendra forme et contour que dans les chapitres ultérieurs et qui n'intéresse d'abord que par le lointain mystérieux où elle baigne et par sa haute condition sociale. Comme amant, il lui oppose une transposition de lui-même. Non pas le Balzac qu'il est réellement, mais un adolescent romantique aspirant au pur amour et sous les pas duquel la vie sombre n'a jusqu'ici semé que des épines.
Paris, mai 1832. Madame, je vous supplie de séparer complètement l'auteur de l'homme et de croire à la sincérité des sentiments que j'ai dû exprimer vaguement là où j'étais obligé par vous de correspondre avec vous. Malgré la défiance perpétuelle où quelques amis me donnent contre certaines lettres semblables à celles que j'ai eu l'honneur de recevoir de vous, j'ai été vivement touché par un accent que les rieurs ne savent point contrefaire. Si vous daignez excuser la folie d'un cœur jeune et d'une imagination toute vierge, je vous avouerai que vous avez été pour moi l'objet des plus doux rêves. En dépit de mes travaux, je me suis surpris plus d'une fois, chevauchant à travers les espaces et voltigeant dans la contrée inconnue où vous, inconnu, habitiez seul de votre race. Je me suis plu à vous comprendre parmi les restes presque toujours malheureux d'un peuple dispersé, peuple semé rarement sur cette terre, exilé peut-être des cieux, mais dont chaque être a un langage et des sentiments qui lui sont particuliers, qui ne ressemblent point à ceux des autres hommes. Ce sont des délicatesses, des recherches d'âme, des pudeurs de sentiments, des tendresses de cœur plus pures, plus suaves, plus douces que chez les créatures les meilleures. Il y a quelque chose de saint jusque dans leur exaltation et du calme dans l'ardeur. Ces pauvres exilés ont tous en eux, dans la voix, dans le discours, dans les idées, un je ne sais quoi qui les distingue des autres, qui sert à les lier entre eux malgré les distances, les lieux et les langages, un mot, une phrase, le sentiment qui respire même dans un regard, est comme un ralliement auquel ils obéissent et, compatriotes d'une terre inconnue, mais dont les charmes se reproduisent dans leurs souvenirs, ils se reconnaissent et s'aiment au nom de cette patrie vers laquelle ils tendent. La poésie, la musique et la religion sont leurs trois divinités, leurs amours favorites, et chacune de ces passions réveille dans leur cœur des sensations également puissantes. Je vous ai donc revêtu de toutes ces idées, et je vous ai tendu fraternellement la main de loin, sans fatuité comme sans coquetterie, mais avec une confiance presque domestique, avec conscience. Et si vous eussiez vu mon regard, vous y auriez reconnu tout à la fois la reconnaissance de l'amant et les religions du cœur, la tendresse pure qui lie le fils à la mère et le frère à la sœur, tout le respect de l'homme jeune pour la femme et les espérances délicieuses d'une longue et fervente amitié. Ce fut un épisode tout romanesque, mais qui osera blâmer le romanesque? Il n'y a que les âmes froides qui ne conçoivent pas tout ce qu'il y a de vaste dans les émotions auxquelles l'inconnu donne carrière libre. Moins nous sommes retenus par la réalité, et plus grand est l'essor de l'âme. Je me suis donc laissé doucement aller à mes rêveries. et j'en ai fait de ravissantes. Alors si quelque étoile a jailli de votre bougie, si votre oreille vous a redit des murmures inconnus, si vous avez vu des figures dans le feu, si quelque chose a pétillé, a parlé près de vous, autour de vous, croyez que mon esprit errait sous vos lambris. Au milieu du combat que je livre, au milieu de mes durs travaux, de mes études sans fin, dans ce Paris agité où la politique et la littérature absorbent 16 ou 18 heures sur les 24, à moi malheureux et bien différent de l'auteur que chacun rêve, j'ai eu des heures charmantes que je vous devais.
À peine sait-il son prénom, la seule chose qu'il connaisse d'elle, qu'il se voue à elle au sens propre pour toutes les éternités. Par ses extases ardentes, ses généreuses confessions, ses effusions passionnées, Balzac a réussi à éveiller la curiosité de l'inconnu pour la personne de l'homme qui lui écrit des lettres aussi enflammées. Dans ses premières missives, elle avait solennellement annoncé qu'elle resterait éternellement, pour lui, l'inconnu, une étoile lointaine, inaccessible, innommée. Mais le souffle de la curiosité va faire s'envoler le voile de l'anonymat et Madame de Hanska va pousser son mari à quitter son château d'Ukraine pour entreprendre, avec elle, un voyage pour quelques mois ou quelques années. Au début de 1833, toute une caravane se met en route de Vierzchovnia. On voyage avec équipage particulier, famille, domestique et un immense bagage à la façon des grands seigneurs russes. La première étape est Vienne. C'est là manifestement un vœu de M. de Hanski. Il y a passé ses années de jeunesse et y possède beaucoup d'amis. Mais le choix de Neuchâtel, comme séjour d'été, revient indiscutablement à Madame de Hanska. On fait savoir à Balzac qu'il doit descendre au hôtel du Faubourg, tout près de la Villa André, où il trouvera des instructions plus précises. Balzac est emballé. « Oh, mon amour inconnu, ne vous défiez pas de moi, ne croyez pas de mal de moi, je suis un enfant plus frivole que vous ne croyez, mais pur comme un enfant et aimant comme un enfant. » Le 25 septembre 1833, après 4 nuits passées dans une voiture cahotante, il débarque si fatigué qu'il commence par prendre une chambre dans un autre hôtel. À celui du Faubourg, qui lui a été indiqué, il trouve alors la lettre si impatiemment attendue, l'invitant à se rendre le lendemain 26 septembre, entre 1h et 4h, sur la promenade, pour y rencontrer son ange chéri.
Neuchâtel, jeudi 26 septembre 1833. Mon Dieu, je n'ai fait qu'un voyage trop rapide et j'étais parti très fatigué, mais tout cela n'est plus rien. Une bonne nuit a tout réparé. J'étais resté 4 nuits sans me coucher. J'irai à la promenade du Faubourg de 1h à 4h. J'y resterai tout ce temps-là à voir le lac que je ne connais pas. Je puis rester ici tout le temps que vous y serez. Écrivez-moi un petit mot pour me dire si je puis vous écrire en toute sécurité, ici, poste restante. Car j'ai peur de vous causer le moindre déplaisir. Et donnez-moi par grâce exactement votre nom. Mille tendresses. Il n'y a pas eu depuis Paris, jusqu'ici, une parcelle de temps qui n'ait été pleine de vous. Et j'ai regardé le val de travers à votre attention. Il est délicieux, ce vallon. À bientôt.
Donnez-moi par grâce exactement votre nom. Car jusqu'ici, en effet, Balzac ne connaît ni le visage, ni le nom de la femme à laquelle il a juré un éternel amour. Ici, le lecteur du roman d'amour que Balzac a fait surgir de son imagination sent son cœur frémir d'impatience. Par malheur, cette scène importante dans le roman d'amour vécu de Balzac ne nous a pas été transmise. Nous savons qu'au cours de cette première rencontre clandestine, un procédé ingénieux a été imaginé pour que Madame de Hanska puisse présenter Balzac de la façon la plus naturelle à son mari sans défiance, comme une relation mondaine. Madame de Hanska ne réussira que 2 ou 3 fois à échapper à la surveillance sans se faire remarquer. mais elle souffre les déclarations d'amour de Balzac et se laisse même prendre, à l'ombre d'un grand chêne, un baiser. Balzac rentre ravi à Paris. Tous ses espoirs sont dépassés.
Paris, dimanche 6 octobre 1833. Mon amour chéri, me voici bien fatigué à Paris. Je suis au 6 octobre et il m'a été impossible de t'écrire auparavant. Il y avait un monde fou sur toute la route et par chaque ville où nous sommes passés, la voiture a refusé 10 à 15 voyageurs. La malle-poste était retenue pour 6 jours, en sorte que mon ami de Besançon n'a pu m'y avoir de place. J'ai donc fait la route sur l'impériale d'une diligence en compagnie de 5 Suisses du canton de Vaud qui m'ont traité corporellement comme un animal qu'on mène au marché et qui ont singulièrement aidé les paquets à me contusionner. Oh, je me suis mis au bain en arrivant et j'ai trouvé ta chère lettre. Oh mon âme, sais-tu bien le plaisir qu'elle m'a fait ? Le sauras-tu jamais ? Non, car il faudrait que je t'eusse dit combien je t'aime. Et on ne peint pas ce qui est immense. Mon Eva chérie, voici donc une nouvelle vie bien délicieusement commencée pour moi. Je t'ai vue, je t'ai parlé, nos corps ont fait alliance comme nos âmes, et j'ai trouvé en toi toutes les perfections que j'aimais. Chacun a les siennes, et tu as réalisé toutes les miennes. Mon Dieu, que je t'ai trouvé belle le dimanche dans ta jolie robe violette. Oh, comme tu as frappé sur toutes mes fantaisies. Pourquoi me demandais-tu tant de te dire ce que je ne voulais t'exprimer que par mes regards ? Ces sortes d'idées perdent à la parole. Je voudrais les communiquer d'âme à âme par les flammes d'un coup d'œil. Maintenant, mon épouse, mon adorée, sache bien, quoi que je t'écrive, pressé par le temps, chagrin ou joyeux, qu'il y a dans mon âme un immense amour, que tu remplis mon cœur et ma vie, que si je ne t'exprime pas toujours bien cet amour, rien ne l'altérera, qu'il fleurira toujours plus beau, plus neuf, plus gracieux, parce que c'est un amour vrai, et que le véritable amour va croissant. C'est une belle fleur, à longues années plantée dans le cœur et qui étend ses palmes et ses rameaux, qui double à chaque saison ses belles grappes, ses parfums. Et, ma chère vie, dis-moi, répète-moi toujours que rien ne froissera ni son écorce ni ses feuilles délicates, qu'il grandira dans nos deux cœurs, aimés, libres, soignés, comme une vie dans notre vie, une seule vie. Oh, que je t'aime, et quel baume cet amour répand sur moi. Je ne sens pas de douleur possible, tu es ma force, tu le vois. Allons, mon Eva chérie, il faut te dire adieu. Non, jamais adieu. Au revoir, à bientôt, à Genève. À Genève le 5 septembre.
L'inconnue est si parfaitement faite pour être l'héroïne du roman vécu, rêvé, que son imagination n'aurait pu trouver mieux. Elle est encore jeune, belle, et enfin, c'est une femme du monde. Et Balzac a toujours rêvé une aventure d'amour avec une femme du monde. Et voici qu'il a trouvé en Madame de Hanska une grande dame, une femme cultivée, ayant beaucoup lu, possédant plusieurs langues, intelligente, éblouissante dans ses manières, qui en impose au roturier qu'est Balzac. Seule désormais doit planer au-dessus de sa vie, la chère et seule femme que le monde contient pour lui, Evelina de Hanska, son étoile polaire. Ils se retrouveront à Genève en décembre de cette même année 1833. D'une illusion d'amour, Balzac a fait une réalité. Son roman vécu n'est pas moins riche en surprises ni moins passionnant que celui des personnages de la comédie humaine. Mais le roman n'est pas encore achevé. Certes, les deux amants se sont rencontrés, Ève et Honoré se sont enlacés, ils se sont jurés une tendresse et une fidélité éternelle, mais que vont entreprendre maintenant ces deux êtres entraînés par leur aventure, enivrés par leur passion ? passionnés, assurément, mais aussi tous deux réalistes. Dès le début, dans le plan de sa vie, il a glissé la formule « une femme et une fortune ». Et rien ne l'excite tant dans sa passion pour Madame de Hanska que de savoir qu'elle est justement Madame de Hanska, aristocrate et millionnaire. Quant à l'étoile polaire, elle ne songe pas davantage à s'installer définitivement dans un appartement parisien pour aller ouvrir tous les jours la porte à des créanciers importuns. Point de duel, donc, d'enlèvement ou toute autre solution romanesque. C'est un pacte sans mystère et presque commercial que concluent entre eux les deux amants. Ils se promettent de se communiquer chaque jour leurs sentiments, les événements de leur vie et prennent tout de suite la précaution de s'offrir, l'un à l'autre, une cassette pour conserver les lettres qu'ils ont l'intention de s'écrire jusqu'à ce que Monsieur de Hanski veuille bien avoir l'amabilité de ne plus se trouver sur leur chemin. Balzac, dans son ivresse, ne semble pas ressentir ce que cette solution a de pénible. Et tandis que Madame de Hanska part faire un voyage d'agrément en Italie avec son époux, sa famille et sa suite, il revient à Paris à sa table de travail. Ils se reverront encore à Vienne en juin 1835. Le triomphe que connaît Balzac dans la capitale autrichienne fait pour lui de ses journées une griserie. Mais il est couvert de dettes. Madame de Hanska, très surveillée par ses proches. Il décide alors de hâter son départ. Ils ne se reverront plus avant juillet 1843. Durant toutes ces années, la correspondance est devenue sans objet entre deux amants qui ne se sont pas vus depuis 7 ans et que depuis longtemps se sont adaptés chacun de leur côté à leur vie particulière. Au fond, la correspondance devrait maintenant prendre fin entre Madame de Hanska et Balzac. Mais l'un comme l'autre se refuse à y renoncer. Cette femme orgueilleuse en est presque venue à la considérer comme ce qu'il y a de plus important dans sa vie et finalement peut-être a-t-elle eu plus de goût pour cette correspondance que pour Balzac lui-même. Elle n'a aucune raison de rompre les relations. Balzac, de son côté, s'est fait une douce habitude de ce constant retour sur lui-même. Il a besoin de quelqu'un à qui il puisse raconter ses soucis, exposer ses travaux. Tout comme elle a l'arrière-pensée de garder cette correspondance, il jouit lui aussi à l'idée de la savoir conserver en quelque lieu secret. Aussi continue-t-il à s'écrire de plus en plus brièvement, de plus en plus rarement, à vrai dire. Et voici que tout à coup, au matin du 5 janvier 1842, arrive au domicile de Balzac une lettre bordée de noir, cachetée de cire noire, qui lui annonce le décès de Monsieur de Hanski, survenu le 10 novembre 1841.
Passy, mercredi 5 janvier 1842. Je reçois à l'instant, cher ange, votre lettre cachetée en noir. Et, après l'avoir lue, je n'en aurais peut-être pas voulu recevoir d'autre de vous, malgré ce que vous me dites de triste sur vous et votre santé. Quant à moi, cher adoré, quoique cet événement me fasse atteindre à ce que je désire ardemment depuis 10 ans bientôt, je puis devant vous et Dieu me rendre cette justice que je n'ai jamais eue dans mon cœur autre chose qu'une soumission complète et que je n'ai point souillé dans mes plus cruels moments mon âme de vœux mauvais. On n'empêche pas certains élans involontaires, et je me suis souvent dit combien ma vie serait légère avec elle. On ne garde pas sa foi, son cœur, tout son être intime, sans espérance. Ces deux mobiles dont l'Église fait des vertus m'ont soutenu dans ma lutte. Mais je conçois les regrets que vous m'exprimez. Ils m'ont paru naturels et vrais, après surtout la protection qui ne vous a pas manqué depuis la lettre de Vienne. J'ai été cependant joyeux de savoir que je pouvais vous écrire à cœur ouvert et vous dire toutes ces choses que je vous taisais, dissiper les grondeuses mélancolies que vous avez appuyées sur des malentendus si difficiles à débrouiller à distance. Je vous connais trop, ou crois trop bien vous connaître, pour douter un moment de vous, et j'ai souvent souffert que vous doutassiez de moi, bien cruellement souffert, car depuis Neuchâtel, vous êtes ma vie. »
Balzac est bouleversé. Il n'a plus d'autre but que de transformer ses interminables fiançailles en mariage, cette promesse en réalité. Les lettres se succèdent à vive allure. Il la supplie, il l'assure que depuis Neuchâtel, elle est sa vie. Le 21 février 1842, lui parvient enfin la réponse de Madame de Hanska. Avec une tranquillité glaciale, elle lui oppose un refus catégorique. « Vous êtes libre !» lui écrit-elle. Elle lui reproche son infidélité, son éloignement. Elle n'a plus confiance en lui.
Passy, lundi 21, mardi 22 février 1842. Je reçois à l'instant votre seconde lettre et je suis encore sous le coup de l'abattement qu'elle a produit en moi. Surtout enveloppée de celle de votre terrible tante qui a sous-entendu tant de choses dans son mot « Paris ». Oh, comme vous avez eu bientôt fait le procès à la plus tendre, à la plus constante et la plus vivace affection qui fut jamais, sans l'entendre, sans vous expliquer les petites choses dont vous vous êtes choqué, sans vous rappeler le peu d'explications qu'il m'a été permis de vous donner dans le temps. Avec quelle glaciale tranquillité vous lui dites « Vous êtes libre ».
Ce refus est pour Balzac un coup de tonnerre. Il ne l'accepte pas. Chez lui, les résistances ne font que provoquer, exalter les forces. Chaque semaine, presque chaque jour, il écrit des lettres pressantes, implorantes, suppliantes. Il accable Madame de Hanska de protestations de fidélité et d'amour.
« Vous ne savez pas combien je me suis attaché fortement à vous. Je m'y suis attaché pour tous les biens humains, l'amour, l'amitié, l'ambition, la fortune, l'orgueil, la vanité, le souvenir, le plaisir, la certitude, et par la foi en vous que j'ai mise au-dessus des biens des créatures. Hélas, mon ange aimé, je ne demandais pas grand-chose à mon Ève, et je ne voulais que ceci. Dans 18 mois, dans 2 ans, nous serons heureux. Je ne voulais que ce « nous » et un terme. Je ne puis plus soutenir cette lutte tout seul après 15 ans de constants travaux. Créer, toujours créer. Dieu n'a créé que pendant 6 jours. Oh cher, vivre enfin cœur à cœur, l'un pour l'autre, et sans entrave. Il y a des moments où cette pensée me rend idiot, et je me demande comment ces 17 mois se sont passés, moi ici, vous là-bas. Quel pouvoir que le pouvoir de l'argent! Quel triste spectacle que de voir les plus beaux sentiments dépendre de cela! Se voir enchaîné, cloué dans Passy, quand le cœur est à 500 lieues. Il y a des jours où je m'abandonne à des rêves. Je me figure que tout est aplani, que la sagesse, la prudence, le savoir de la reine ont triomphé, qu'un mot m'a dit « Venez !» et je me suppose en route. Dans ces jours-là, je ne suis pas reconnaissable. On me demande ce que j'ai. Je dis « Mes ennuis vont finir, j'ai de l'espoir. » Et on dit « Il est fou. »
1842, 1843, les saisons se succèdent, les lettres se succèdent, enfin 18 mois après la mort de M. de Hanski, en juillet 1843, la permission est accordée, l'argent du voyage réuni, et 10 ans après leur première rencontre, Balzac débarque de Dunkerque à Saint-Pétersbourg. Ils passent l'été ensemble, et en novembre, Balzac est de retour à Paris. Ses forces commencent à le quitter. Il avait cherché à égaler socialement Madame de Hanska. La chambre des pairs, il est trop tard. Le théâtre, ses pièces n'ont pas le succès escompté. L'académie, comme on n'ose pas contester sérieusement ses titres, on trouve 1000 prétextes pour l'évincer. On lui objecte sa situation financière embrouillée, ses absences de Paris, Monsieur de Balzac est trop imposant pour nos fauteuils, lance même un de ses ennemis les plus acharnés. Les années 1843, 1844, 1845 sont des années d'impatience intérieure. On sent que la monomanie du travail, cette force primitive de Balzac, est interrompue. La vitalité de Balzac s'est tournée vers la vie et détournée de la création. En 1846, il publie encore deux chefs-d'œuvre, « Le cousin Ponce » et « La cousine Bête ». Mais le corps et aussi l'âme sont désormais définitivement épuisés.
Je suis tombé dans la période bienfaisante d'un sommeil irrésistible. La nature ne veut plus rien faire. Elle se repose. Elle n'est plus sensible au café. J'en ai pris des flots pour achever Modeste Mignon. C'est comme si j'eusse bu de l'eau. Je me réveille à 3 heures et je dors. Je déjeune à 8 heures. J'éprouve le besoin de redormir. Et je redors. Je suis entré dans une période d'horrible souffrance nerveuse à l'estomac causée par l'abus du café. Il me faut absolument le repos. Ces douleurs affreuses, sans exemple, m'ont pris depuis 3 jours. J'ai cru la première fois à quelque accident. Oh, je suis bien énormément fatigué. J'ai calculé ce matin que j'ai fait depuis 2 ans 4 volumes de la Comédie humaine. Dans 20 et quelques jours d'ici, je ne serai plus bon qu'à mettre en malle-poste.
À peine a-t-il achevé en 10 semaines ces 2 œuvres éclatantes que sont le cousin Ponce et la cousine Bête, qu'il laisse tout en plan. Il veut se reposer. Se reposer profondément. Il sent qu'avec ses dernières grandes œuvres, il s'est acquis le droit au repos. Il quitte la France et s'en va en Ukraine, chez Madame de Hanska. De l'automne 1846 au printemps 1850, Balzac partagera sa vie entre l'Ukraine et Paris, entre Madame de Hanska et son art. Mais à l'ivresse a succédé la solitude. Pour Madame de Hanska et sa fille, ces femmes gâtées de la fortune, qui ne pensent qu'au plaisir, il est un étranger. Le bon Balzac est devenu le pauvre Balzac. Certes, elle éprouve envers lui une certaine pitié, et c'est ainsi qu'on prépare le mariage pour le mois de mars 1850. La santé de Balzac décline. Enfin, ils se décident à partir et le voyage est épouvantable. Enfin, ils arrivent à Paris devant la maison de la rue Fortunée. Dans l'ardeur de son désir, il a, au prix d'indicibles peines et de sacrifices désespérés, installer cette maison de la rue Fortunée, pour y vivre avec la femme qu'il a conquise. En réalité, il n'y entre que pour y mourir. La maison a depuis été détruite. La rue Fortunée est devenue la rue Balzac. Jusqu'à la fin, la loi du destin de Balzac s'est reproduite invariablement. Ce n'est qu'en ses livres qu'il a pu donner forme à ses rêves, et jamais dans sa vie même.
Thank you.